La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Nous vivons actuellement une période de transition unique dans l'histoire de notre humanité avec l'accélération exponentielle de la révolution numérique qui a totalement modifié notre vie quotidienne, notre façon de concevoir le monde. Et c'est toute l'éducation, notre capacité à emmagasiner de la connaissance qui s'en trouve bouleversée. Le biologiste François Taddeï, qui est directeur du Centre de Recherche Interdisciplinaire, milite activement pour l'innovation dans l'éducation et dans un livre qui paraît, il affirme que l'on n'apprendra pas au XXIe siècle comme au cours des siècles précédents, mais pour quelles raisons? Comment notre cerveau s'adapte-t-il à ces changements et comment collectivement allons-nous nous adapter à ces transformations dans notre façon d'apprendre? Toutes ces questions, on en discute dans un instant avec vos questions à François Taddeï sur franceinter.fr et sur le mot-clé la TAC. Bonjour Caroline Tourbe.
Bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, la découverte d'un super amas de galaxies.
Oui Mathieu, c'est une structure colossale et très intrigante qui vient d'être repérée au sein de l'univers jeune. De quoi nous en apprendre un peu plus sur l'histoire du cosmos.
Et c'est Fanny Boyon qui réalise aujourd'hui cette émission préparée par Sophie Vaux.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Bonjour François Taddeï.
Bonjour.
Apprendre au XXIe siècle, c'est donc ce livre que vous publiez chez Kalman Levy. Il y a une question qui visiblement nourrit, qui vous nourrit tout particulièrement, c'est comment œuvrer pour une humanité plus humaine. Et ça passe évidemment par une révolution de nos façons d'apprendre. Apprendre plus vite en satisfaisant nos curiosités, ça peut être aussi une des clés pour résoudre cette question.
Ce qui est sûr, c'est que à partir du moment où les machines apprennent et qu'elles vont prendre un certain nombre de métiers, il va falloir qu'on apprenne autre chose et autrement et qu'on soit peut-être encore plus humain à mesure qu'elles progressent. Il faut que nous aussi on progresse, mais pas forcément dans la même dimension parce que être en compétition avec elles, ça ne marchera pas ni sur la mémoire, ni sur la capacité de calcul, ni sur tout un tas de choses qu'elles font toujours mieux.
Collectivement, on a des choses à faire là, justement.
Collectivement, il faut qu'on se mobilise pour essayer de réfléchir à ce sujet, pour essayer de réinventer ces manières d'apprendre, d'enseigner, de faire de la recherche, mobiliser l'intelligence collective.
On va donc explorer avec vous ces différentes façons de mettre en place ce changement pour construire une planète apprenante. Vaste ambition. Et on en discute donc dans un instant avec les auditeurs de La Tête au Carré. C'est une structure colossale que les astrophysiciens ont baptisée Hyperion, en référence au titan de la mythologie grecque. C'est dire si la découverte de ce super amas de galaxies les a impressionnés. Caroline Tourbe, on en parle avec notre invité.
Oui Mathieu, aujourd'hui nous sommes avec Olivier Lefebvre, en duplex depuis les bureaux de Radio France à Marseille. Bonjour.
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 Merci pour votre invitation.
Vous êtes chercheur au laboratoire d'astrophysique de Marseille, le LAM, et vous avez largement participé à la découverte d'Hyperion. Alors j'ai une première question toute simple, c'est quoi un super amas de galaxies?
Alors un super amas de galaxies, c'est un endroit dans l'univers où on a beaucoup de galaxies qui se regroupent, et on essaye de comprendre comment ce type de structure peut se former dans les premiers instants après le Big Bang.
Et alors, Hyperion, qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce titan cosmique, par rapport aux autres super amas de galaxies qu'on a déjà observés?
Alors là, c'est la particularité, c'est qu'on observe un super amas très tôt dans la vie de l'univers, donc seulement 2 milliards d'années après le Big Bang. Et donc, on a l'opportunité de voir une de ces superstructures en train de se former. Et la particularité vraiment extrême, c'est que cette structure a une masse de 1 million de milliards de fois la masse du Soleil, ce qui est considérable à cette époque de l'univers. Voilà, donc c'est la particularité qui nous a choqué quand on a découvert cette structure.
Donc Hyperion est à la fois très jeune, il date d'une époque très reculée, peu de temps avant le Big Bang, et il est également bien plus massif qu'attendu. Il a aussi une structure, une forme particulière.
Alors déjà, c'est une structure très étendue, hein, qui fait 300 millions d'années-lumière, hein, c'est considérable. Il faudrait à la lumière 300 millions d'années pour aller d'un bout à l'autre. L'action de la gravité, qui est la force principale dans l'évolution de l'univers, a pas encore eu le temps de faire son œuvre. Et on observe une structure qui est relativement peu dense, comparée au super amas qu'on observe dans l'amas local. Et donc cette structure, elle est en train de se former. C'est ça qui est très intéressant. On observe les premiers stades d'évolution des plus grandes structures de l'univers.
Et ça, pour des astrophysiciens, c'est unique en soi comme modèle d'observation, Olivier Lefebvre, cette formation-là sous vos yeux?
Oui, alors on est chanceux, astrophysiciens, c'est qu'on peut remonter dans le temps hein, grâce à la propagation finie de la vitesse de la lumière. Et donc on a le privilège d'observer ce qui se passait seulement 2 milliards d'années après le Big Bang. Aujourd'hui, l'univers a 13,8 milliards d'années. Et voilà, entre ces 2 milliards d'années où on observe Hyperion et puis les amas, les super-amas locaux comme le super-amas de la Vierge, eh bien, on essaye de comprendre quel est le fil d'évolution qui relie donc les structures très jeunes aux structures évoluées qu'on observe aujourd'hui.
Donc avec
le livre d'histoire.
Avec l'observation d'Hyperion et les autres super-amas de galaxies que vous avez repérés, c'est un peu comme si vous aviez une photo avant-après. Ça permet de comparer, de mieux comprendre l'évolution.
Voilà, on essaye de comparer des structures comparables à différentes époques de l'univers pour voir comment elles ont évolué et comment les effets d'environnement, donc les endroits où on a beaucoup plus de galaxies, influent sur l'évolution de galaxies comme la nôtre. Vous savez que notre galaxie, la Voie lactée, a plusieurs milliards d'étoiles. Et elle a été façonnée en fait par l'environnement dans lequel elle réside. Et donc on essaye de comprendre quels sont comment les effets d'environnement ont pu acter tout au cours du temps cosmique.
Et comment est-ce qu'on s'y prend pour observer un tel super-amas? Vous avez utilisé un outil installé sur le VLT?
Oui, alors c'est un spectrographe qui s'appelle VIMOS, hein, qui a été réalisé par un consortium européen piloté par le LAM, dont j'étais responsable. Et c'est un spectrographe qui permet de mesurer les distances. En fait, ça mesure ce qu'on appelle le décalage vers le rouge. Et par le modèle d'univers, ça nous permet de donner une distance. Et on fait une cartographie à trois dimensions d'une région de l'univers. Et donc, en faisant cette cartographie, on est tombé sur cette structure extrême.
Donc, en fait, vous n'avez observé pour l'instant qu'un tout petit bout du ciel? Mais vous avez eu de la chance, vous êtes tombé sur Hyperion.
Oui, on peut dire ça comme ça, c'est effectivement de la chance. La chance provoquée, on va dire, parce qu'on a mis en œuvre des moyens quand même assez lourds. Et les observations ont demandé 640 heures d'observation sur le télescope du VLT au Chili. Mais effectivement, c'est seulement 1 degré carré du ciel qui a été observé, alors que le ciel a plus de 40 000 degrés carrés. Donc vous voyez le potentiel de découverte qui existe si on a la capacité d'aller chercher de structures similaires dans d'autres régions du ciel. Et en particulier, on a une manip avec l'ESA, l'Agence spatiale européenne, qui s'appelle Euclide, qui permettra d'aller chercher des hyperions dans des zones beaucoup plus grandes d'univers, et on espère en trouver encore beaucoup.
Est-ce qu'il y en a des milliards et des milliards de ces amas de galaxies ou pas, Olivier Lefebvre?
Alors non, là c'est vraiment des structures extrêmes. Hein, et donc là, on peut dire qu'on en a trouvé une dans 1 degré carré. Donc peut-être qu'on en trouvera 40 000 si on est capable d'observer 40 000 degrés carrés du ciel. Donc vous voyez que c'est relativement rare, très rare. Et la question qui va se poser, là on en a trouvé une structure, elle est très massive. Si on continue à trouver beaucoup de ces structures, ça peut nous forcer à reconsidérer certains des modèles cosmologiques.
Parce qu'a priori,
on n'en est pas là, mais
oui, Hyperion correspond pas exactement à ce à quoi on pouvait s'attendre. C'est-à-dire, il à l'âge qu'il a, normalement, il n'aurait pas dû être aussi énorme et aussi massif.
Exactement. Voilà. Ça peut être un événement extrême.
Oui, c'est peut-être un accident.
C'est peut-être un accident, voilà. Et après, c'est une question de statistique, c'est-à-dire que si on observe beaucoup de structures similaires, bah, on va se gratter la tête et se dire bah, peut-être qu'il y a des choses à modifier dans nos modèles.
Alors, Hyperion, est-ce le titan de l'espace? Est-ce qu'il a des frères? Est-ce qu'il a des sœurs? Vous avez une dizaine d'années encore d'expérience, d'observation pour savoir si c'est le cas et si ça peut aller jusqu'à peut-être mettre en cause le modèle cosmologique standard?
Oui, ou du moins l'ajuster. Hein. La remise en cause, elle est toujours difficile à mettre en œuvre, mais sûrement si on trouve plusieurs Hyperions, il va falloir qu'on ajuste le modèle et certains de ses paramètres fondamentaux, comme par exemple le taux de croissance des structures qui est piloté par la gravité.
Et est-ce qu'à l'échelle de...
Il y a des modèles de gravité modifiés qui pourraient expliquer comment des structures aussi massives se forment très tôt.
Est-ce que, Olivier Lefebvre, ce sera ma dernière question, à l'échelle d'une vie d'astrophysicien, cet amas de galaxies va beaucoup évoluer ou pas?
Alors justement l'action de la gravité est continue sur la vie de l'univers et donc on s'attend à ce que les condensations qui sont relativement peu prononcées observées dans Hyperion deviennent de plus en plus denses au cours de la vie de l'univers. Et donc si on était capable de revenir dans 11 milliards d'années pour observer Hyperion tel qu'il sera dans 11 milliards d'années, on l'observera avec une structure très différente et beaucoup plus condensée.
Merci beaucoup en tout cas pour vos explications à l'occasion donc de la découverte de ce super amas de galaxies. Olivier Lefebvre, vous étiez en direct des bureaux de Radio France à Marseille. Merci à vous et Caroline, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le plus long pont du monde inauguré en Chine. Il mesure 55 km de long, soit 25 fois plus que le viaduc de Millau. Il relie Hong Kong à Macao. Il aura fallu attendre et surtout 20 milliards d'euros et plus de 9 années de travaux pour achever sa construction. L'ouvrage en effet nécessitait la création d'un tunnel sous-marin et d'îles artificielles, mais désormais c'est fait. Il ne faut plus qu'une heure de route pour rejoindre Macao depuis Hong Kong, contre 4 auparavant. Notre microbiote met plus de 6 mois à se remettre d'un traitement antibiotique. Une étude menée à l'université de Copenhague montre que les bonnes bactéries qui peuplent nos intestins peuvent être totalement éradiquées lorsque nous prenons justement ces antibiotiques et qu'elles ont bien du mal à reprendre le dessus. Les chercheurs danois ont administré 3 types d'antibiotiques à des volontaires en bonne santé. 6 mois après le traitement, les bonnes bactéries avaient bien recolonisé leur intestin, mais certaines familles bactériennes manquaient toujours à l'appel. Les auteurs estiment que l'usage des antibiotiques doit être raisonné car il modifie durablement la diversité et l'équilibre de notre écosystème intestinal. Et puis un enfant néandertalien dévoré par un rapace géant, c'est l'hypothèse incroyable proposée par une équipe de l'université de Jagellonne à Cracovie. Les chercheurs ont analysé les petits bouts de phalanges néandertaliens retrouvés au milieu d'un grand nombre de restes d'animaux dans la grotte de Siemna en Pologne. Ces phalanges seraient celles d'un enfant de 5 à 7 ans et surtout elles portent des traces qui indiquent que ces ossements seraient passés par le système digestif d'un oiseau géant. Allez, apprendre au 21e siècle, c'est François Taddeï, notre invité, dans un instant.
Le 7e jour de la semaine, avec toi, j'aime bien traîner. À Paris plage, Paris paresseuse, les soirs d'été sont chauds. Paris Eldorado sur l'eau.
Gilberto en duo avec Étienne Dao et les bords de Seine.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
François Tadi, vous êtes notre invité cet après-midi. Vous avez été biologiste, polytechnicien. Vous avez créé donc le CRI, le Centre de Recherche Interdisciplinaire à Paris, pour explorer de nouvelles manières d'apprendre, d'enseigner, de faire de la recherche. Et donc vous êtes notre invité à l'occasion de la sortie de cet ouvrage « Apprendre au XXIe siècle » qui paraît chez Kalman Lévy. Un mot d'abord sur le CRI, tiens, pour commencer. D'abord parce que vous avez investi de nouveaux locaux dans le cœur de Paris. Un centre donc qui expérimente, qui diffuse de nouvelles manières d'apprendre, d'enseigner, de faire de la recherche. Et qui s'attache à fédérer l'intelligence collective. C'est ça un peu l'idée du CRI, hein ?
Exactement. On essaie de partir des étudiants d'aujourd'hui qui ont tout un tas de projets qui collent pas forcément avec les barrières disciplinaires qui sont assez dominantes dans beaucoup d'endroits. Et on essaie de les inviter à utiliser le meilleur de ce que chaque discipline peut apporter pour faire avancer des projets très innovants aux interfaces. Et on a aujourd'hui des étudiants en licence, en master, en doctorat, on a des diplômes universitaires, on a en ce moment même pas mal d'enseignants qui ont profiter de leurs vacances scolaires officielles pour venir chez nous, pour se former. On a des nouveaux locaux. On a effectivement, la mairie de Paris nous a confié 5000 m² pour 50 ans.
Dans le quartier du Marais, en plein centre de Paris, dans le cœur de la ville.
Et donc c'est vraiment très privilégié. Ça nous permet effectivement d'être beaucoup plus ouverts à différentes communautés qui peuvent vouloir venir et organiser des événements. Aujourd'hui même, on accueille des gens qui s'intéressent à ce qu'on appelle la open recognition, donc la reconnaissance ouverte dans la société de la connaissance. Quelle forme de reconnaissance on peut inventer
Donc, et pour qu'on soit donc une société apprenante, hein, c'est ça l'idée aussi du CRI.
Exactement. Le gouvernement m'avait demandé d'écrire un rapport sur le sujet qu'on a remis à Jean-Michel Blanquer, Frédéric Vidal et Muriel Pénicaud. Et donc ce rapport sur la société apprenante, c'est une société dans laquelle quand quelqu'un a appris quelque chose, quelqu'un d'autre peut apprendre la même chose plus facilement, parce qu'aujourd'hui on peut documenter et partager ce qu'on a fait à des échelles sans précédent, parce que le numérique facilite tout ça.
Quand justement on s'attaque à un chantier aussi vaste, est-ce que dans notre pays en particulier, on se confronte à beaucoup de résistance ?
Il y a eu des résistances, on peut pas le nier, mais en même temps, il y a eu énormément de gens qui sont venus nous accompagner. Les universités Paris-Descartes, Paris-Diderot, Sorbonne, Paris-Cité, l'INSERM qui m'a soutenu depuis le départ, et tout un tas d'acteurs comme la Fondation Bettencourt nous ont vraiment permis de faire croître ce projet qui a démarré autour d'une petite table dans la salle café de mon labo et qui a eu la chance de grandir exponentiellement jusqu'aux 5000 m² qu'on vient d'inaugurer.
Ouais, vous dites d'ailleurs à quel point finalement il y a une sorte de paradoxe autour de l'université, hein, c'est que toutes les disciplines y sont enseigner, sauf celle qui concerne l'université elle-même. C'est-à-dire que l'université ne se regarde pas, n'apprend rien d'elle-même.
En tout cas, pas suffisamment. C'est pas qu'il y ait personne qui s'intéresse au sujet, mais en moyenne, elle se donne pas les moyens de se transformer, de penser son rôle au XXIe siècle, de penser son rôle dans un monde où, effectivement, la robotique, l'intelligence artificielle transforme tellement les choses, où si les machines apprennent, qu'est-ce que les étudiants doivent apprendre? Si on peut apprendre en ligne, pourquoi est-ce qu'on doit aller sur un campus? Qu'est-ce qui se fait de spécifique dans ce genre de lieu? Je pense que c'est une question ouverte, dont personne n'a vraiment la réponse à lui tout seul, mais où on pourrait essayer de mobiliser, en particulier les étudiants qui seraient ravis de pouvoir travailler là-dessus. C'est ce qu'ils font un petit peu chez nous, mais je pense qu'on pourrait le faire beaucoup plus largement.
Ouais. Vous développez des MOOC également, justement, au sein du CRI ?
Exactement. Donc, on a développé un certain nombre de MOOC. On est même en train... On a fait des MOOC pour les aventuriers.
Donc, on peut rappeler ce que c'est que le MOOC, quand même.
Ah oui, bien sûr. Les MOOC, c'est les Massive Online Open Course. C'est donc des cours ouverts en ligne à tous. Et on en a fait pour, par exemple, former des enseignants qui veulent accompagner le questionnement des enfants, qui veulent passer d'un questionnement enfantin à un questionnement scientifique en s'appuyant sur des démarches qui sont les démarches de la recherche associées à différentes disciplines. Ça va des sciences humaines à l'astrophysique, par exemple, ou à la biologie, ou au droit. Et donc, on essaye vraiment d'accompagner le questionnement des enfants pour leur permettre de s'adosser à des corpus scientifiques, à des méthodologies scientifiques pour aller vers un questionnement scientifique.
François Taddy, je parlais des bactéries tout à l'heure dans les brèves, hein, avec le microbiote intestinal. Ça a été la première partie de votre vie, finalement, hein, cet aspect-là de la biologie. Et les bactéries, ben, finalement, vous ont inspiré aussi beaucoup de choses, hein, sur l'intelligence collective aussi.
Exactement. Ce qui est vrai, c'est que les bactéries sont au début sensibles aux antibiotiques, mais que très vite, elles peuvent apprendre à... Enfin, en tout cas, on peut sélectionner des résistances. Et ces résistances, c'est souvent des espèces différentes qui ou donc il y a des bouts de gènes qui viennent d'espèces différentes qui sont recombinés et qui sont transférés et éventuellement les multirésistances qu'on observe dans les hôpitaux aujourd'hui par exemple sont typiquement une œuvre collective bactérienne. Donc évidemment c'est contre notre intérêt mais c'est quand même assez remarquable et ce dont on s'aperçoit c'est que elles coopèrent, elles échangent de l'information, elles coopèrent sur comment échanger de l'information, elles échangent de l'information sur comment coopérer. Donc ça commence à être assez impressionnant et elles font ça sans organisation hiérarchique donc ça peut effectivement nous inspirer par rapport à nos échelles à nous.
Ouais, donc on passe de la bactérie au cerveau humain finalement. Il y a des choses dont on peut s'inspirer, comme d'ailleurs chez les insectes sociaux, parce que les fourmis aussi par exemple hein, montrent de quelle façon, quand on travaille en collectif, on est beaucoup plus fort et efficace.
Exactement, donc en fait le vivant est plein de manières de s'adapter à des environnements changeants. Hein, quand une pomme tombe à côté d'une fourmilière, il y a peut-être une fourmi qui par hasard va la trouver, mais quand elle va avoir trouvé cette source de nourriture, en revenant, elle va laisser une trace qui va dire à ses petites copines si vous remontez cette trace, vous trouverez quelque chose de très intéressant. Et éventuellement, il va y en avoir toujours plus qui vont laisser des traces toujours plus fortes. Et donc, ça va faire un autoroute à fourmis, ce qu'on observe assez souvent. Et ce qui est intéressant, c'est quand il n'y a plus de pommes, parce qu'à un moment donné, elles l'auront digéré intégralement, eh bien, la trace qu'elles avaient laissée est volatile. Et donc, progressivement, l'autoroute va se dissoudre, plus personne n'ira dans cette direction.
Ouais. Est-ce que vous travaillez encore sur les micro-organismes ou c'est vraiment une autre partie de votre vie?
J'ai encore quelques publications qui sont en cours, mais qui sont des travaux que j'avais initiés il y a quelques temps. Mais au CRI, on a des gens qui poursuivent une partie de nos recherches, par exemple sur le vieillissement des bactéries
bien
ou sur d'autres sujets.
Alors on avait ici même Eric Carsanti il y a quelques jours hein, pour parler justement de la vie, de la transformation de la vie. Vous citez Miroslav Radman, qui a été aussi quelqu'un de très important dans votre parcours. Donc effectivement, la biologie a été le point de départ de cette réflexion. Alors vous parlez de cette transition finalement et de cette époque assez unique hein, que nous sommes en train de vivre parce que l'humanité justement serait spectatrice de cette évolution en cours, de cette transition évolutive. Alors qu'est-ce que vous entendez exactement par ce terme-là, transition évolutive, ça veut dire quoi?
Alors John Maynard Smith, qui est un grand évolutionniste du XXe siècle, avec qui j'ai eu le chance de travailler un petit peu, John avait étudié les différentes grandes transitions précédentes. Par exemple, l'apparition de la vie, les premières molécules capables de se répliquer, les premiers amas multicellulaires, les premiers organismes ayant des cerveaux, et puis les premiers insectes sociaux, les premiers... Donc chacune de ces transitions est associée à ce qu'on appelle une transition évolutive dans laquelle on passe d'individualité, par exemple de cellules individuelles, à un collectif cellulaire. Il va falloir qu'elles coopèrent entre elles. D'insectes individuels à des insectes sociaux. Il va falloir à nouveau apprendre à coopérer. Et en fait, il se passe un petit peu la même chose aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on vit une autre forme de transition dans laquelle, pour l'instant, nous sommes des individus, mais il y a énormément de choses à faire qu'on ne pourra faire que si on sait coopérer à une autre échelle. Et par ailleurs, il y a d'autres formes de transition qu'on n'avait pas observées au préalable. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on est capable de resynthétiser un génome entier, donc un organisme vivant. On est capable de donner naissance à des robots qui sont capables de se reproduire eux-mêmes, éventuellement en faisant de la recombinaison, donc avec des formes de sexualité spécifiques de ces robots. On est capable de produire des intelligences qui vont être capables éventuellement de se réécrire elles-mêmes progressivement et donc d'évoluer dans des directions qu'on ne saura pas forcément prédire. Donc on vit un moment très particulier. Moi, j'aurais été un scientifique venu d'une autre planète, venu de l'ama
de galaxie, on en parlait, ouais.
Eh bien, je regarderais de ce côté-ci en disant, mais tiens, il est en train de se passer quelque chose d'intéressant parce qu'il y a une nouvelle transition qui s'ouvre, vers quoi on ne le sait pas, mais c'est probablement un moment très intéressant. Et ce qui est spécifique par rapport aux transitions préalables, du genre émergence du langage, c'est qu'on a conscience du fait que l'on vit une transition. Et je ne pense pas que les premières cellules avaient conscience de l'apparition de la vie, par exemple. Ouais. Nous, on a conscience, et la question c'est, quand on a conscience de la transition qu'on vit, est-ce que ça nous aide à la penser différemment? Est-ce que ça nous aide éventuellement à choisir la direction que l'on souhaite prendre individuellement et collectivement?
Est-ce que c'est pas la spécificité de l'humain, justement, par rapport à toutes les autres espèces animales, c'est d'avoir cette conscience de lui-même aussi poussée?
Exactement. Et cette conscience permet à la fois d'analyser notre histoire, de penser notre présent, mais aussi de se projeter dans différents types de futurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Et on a entre-temps développé un arsenal scientifique qui nous aide à bien comprendre les transitions précédentes pour éventuellement essayer de penser la transition qu'on est en train de vivre.
Dans ce que vous décrivez, finalement, François Tédé, il y a aussi toute cette robotique, toutes ces machines qui nous bousculent beaucoup, parce que finalement, dans cette émancipation là que vous décrivez, il y a quand même l'espèce humaine à côté qui doit réagir et essayer de faire en sorte de pas complètement se faire bouffer par tout ce qui nous entoure là, non ?
Il faut effectivement que collectivement on se pose des questions d'éthique. Je pense que c'est absolument essentiel. Hein, Aristote avait défini trois formes de connaissance, épistémé, techné et phronesis. Épistémé, ça a donné l'épistémologie, la science, la connaissance du monde. Techné, ça a donné la manière d'agir sur le monde, ça a donné la technologie, ça a cru exponentiellement. Et phronesis, la plupart des gens ont oublié ce que ça pouvait vouloir dire, et c'est l'éthique de l'action. Et donc si on fait progresser la science et la technologie, mais pas l'éthique de ces perspectives, alors on peut effectivement courir un certain nombre de dangers. Donc si, par contre, on essaye collectivement de mobiliser nos capacités à essayer de penser l'avenir que l'on souhaite, je pense qu'on a une chance de s'en sortir, mais je pense qu'il faut la saisir et la saisir collectivement.
Et comment faire ? C'est ce qu'on va voir avec vous dans un instant. Apprendre au 21e siècle. On va bien sûr parler beaucoup d'éducation, avec également les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. François Tadéhi, vous êtes l'invité de la Tête au Carré cet après-midi. On se retrouve juste après Tata Fatigué et c'est Vodou Game.
Gagner la misère, 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 gagner la misère
France Inter.
François Taddeï, apprendre au XXIe siècle, vaste programme. Donc, ce livre paraît chez Kalman Lévy avec les messages des auditeurs qui arrivent sur franceinter.fr. Avant justement de rentrer dans les questions centrales de votre ouvrage, vous revenez d'abord au début sur un épisode évidemment marquant de votre vie, puisque le 11 septembre 2001, vous étiez à New York au moment où les tours se sont effondrées. Et finalement, non seulement, bien sûr, vous avez été sur place et observateur de ce qui s'est passé, mais en rentrant tout de suite à Paris, à Roissy, le cheminement dans votre tête aussi s'est fait et vous avez décidé un petit peu de sortir de votre tour d'ivoire de chercheur et d'aller vers le monde. Ça a vraiment été un événement bouleversant pour vous aussi à ce titre-là, non ?
Oui, tout à fait. C'est vrai que quand on est... En plus, j'étais un jeune papa et quand on a la responsabilité de la prochaine génération et qu'on voit ce genre d'événement se produire, on ne peut que s'interroger sur dans quel monde nos enfants vont grandir. Et donc ça a été effectivement un moment très important pour moi. Et c'est vrai que la recherche m'a beaucoup apporté, elle m'a aidé à comprendre beaucoup de choses sur notre histoire au sens du temps long, et elle m'a aidé à comprendre une partie des changements du monde tels qu'ils se produisent. Et en tant que père, en tant que citoyen, je me suis dit que j'avais pas envie que mes enfants grandissent dans un monde où ce genre de choses se produisaient, et donc je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire, et je me suis dit qu'à ma petite échelle, je pouvais essayer d'accompagner quelques étudiants, essayer de les former, essayer de, non pas essayer d'aider juste mes enfants, mais essayer de créer un écosystème. Et ça, c'est ce que j'ai appris aussi des bactéries, c'est que elles sont dans un environnement où elles se sentent pas très à l'aise, il y a plusieurs options, elles peuvent muter et essayer de s'adapter, elles peuvent migrer et essayer de fuir, ou elles peuvent collectivement co-construire un environnement qui leur est plus favorable. J'ai choisi cette voie-là parce que la migration en dehors de cette planète, c'est pas une option, et muter, c'est pas mon genre. Sur une génération, ça se fait pas.
Donc l'échange plutôt, c'est ça qui est intéressant et c'est ce qui est au cœur justement de cette réflexion. Paul nous dit sur franceinter.fr, quand on parle d'apprendre, il s'agit d'apprendre pour soi avec le désir d'en savoir plus ou transmettre son savoir et le partager. Bon, on va deviner à peu près votre réponse, mais...
Bah, j'essaye de dire que les deux vont de pair, évidemment, de toutes les manières. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que lorsque l'on transmet quelque chose à quelqu'un d'autre, généralement, on conforte son apprentissage. Et donc, dans les classes qui... Il y a par exemple un bel exemple qui est devenu un peu viral en ce moment, de classe mutuelle, avec un beau TED là-dessus, qui montre qu'est-ce qui se passe lorsque les enfants apprennent les uns les autres dans une classe. C'est des choses qui se faisaient déjà au 19e siècle, ça redevient d'actualité et je m'en félicite, parce qu'en fait, ça avait été montré déjà à l'époque, c'est beaucoup plus efficace. Quand un enfant transmet quelque chose, il consolide ses apprentissages.
On va écouter la voix de Maria Montessori, hein, puisqu'on va beaucoup parler d'éducation ensemble, avec une archive qui date de 1947. Écoutez-la, elle parle en français avec son bel accent italien.
Ma méthode consiste surtout de donner à l'enfant la possibilité de vivre naturellement et de susciter sa spontanéité. Alors je prépare un milieu où il puisse vivre comme dans une maison. Et dans ce milieu, je mets une quantité d'objets qui sont aussi scientifiques et qui servent au développement de son intelligence. Par exemple, pour l'éducation des sens, des objets par lesquels ils peuvent s'exercer dans la vue, l'ouïe, le tact, par des exercices qui sont intelligents en même temps et intéressants pour eux. Alors, quand l'enfant, au lieu de jouer simplement, use tous ces objets, il se développe, il devient toujours plus intelligent. La maîtresse est comme une directrice de cet ambiant. Elle aide l'enfant dans son activité, mais ne le trouble pas, le laisse faire. Et il devient très actif, et dans cette activité, il s'ordonne et devient discipliné et heureux.
Voilà, Maria Montessori, donc en 1947, François Taddeï, parce qu'il y a une longue tradition d'une réflexion justement sur l'éducation des enfants, et il y a largement contribué quand même. Hein.
Ah, je suis très ému de l'entendre, c'est l'année de naissance de ma mère en plus, donc ça remonte loin et ça montre que ça fait des générations que les gens se posent ce genre de questions. Et en fait, ce qu'on a essayé de faire modestement au niveau du CRI, c'est un petit peu la même chose pour des étudiants d'âge universitaire, c'est donc leur créer un environnement dans lequel ils vont pouvoir explorer, dans lequel ils vont pouvoir créer, dans lequel ils vont pouvoir coopérer pour faire ensemble des choses qu'ils ne sauraient pas faire seuls. Donc elle a clairement ouvert des portes très intéressantes, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle redit, c'est des objets scientifiques. Elle avait pensé, elle avait expérimenté, et je pense qu'elle serait aujourd'hui ici, elle continuerait à expérimenter, à faire évoluer ses pédagogies.
Ouais, et justement, l'expérimentation pour les enfants eux-mêmes, hein, c'est aussi au cœur de son projet.
Complètement. Donc je pense que c'est essentiel. C'est exactement ce qu'on essaie de faire, mettre la démarche scientifique accessible aux enfants. Ouais.
Est-ce que notre système éducatif aujourd'hui a pris vraiment conscience de l'ampleur justement de cette transition que nous sommes en train de vivre, du bouleversement là qui est en cours?
Je pense qu'il y a toujours plus d'individus qui en ont pris conscience, et pour avoir rencontré beaucoup de gens à beaucoup d'étages du système éducatif, je crois que pratiquement tout le monde, ou en tout cas tous les étages, il y a au moins des personnes qui ont compris le besoin de changement. Mmh. Ce qui est étonnant, c'est que ce système, peut-être parce qu'il est très hiérarchique et qu'il est assez massif, a du mal à évoluer. Alors que la plupart des gens voudraient que ça évolue, mais donc les individus veulent évoluer, mais la structure, l'institution, a beaucoup plus de mal à se transformer suffisamment rapidement.
Ouais. Et donc là, il faut tout mettre en œuvre justement pour que les choses bougent, mais dans ce domaine, c'est compliqué quand même. Hein.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'autres pays ont su le faire. Donc, ça rend optimiste de savoir que c'est possible. Et on peut essayer de comprendre comment ils l'ont fait. Et souvent, ils l'ont fait en passant d'une pyramide de contrôle, qui fonctionne assez bien chez nous, où l'enfant est contrôlé par l'enseignant, qui est contrôlé par tout un tas de niveaux hiérarchiques. Ils sont passés d'une pyramide de contrôle à une pyramide de confiance. Ouais. Et donc, l'école de la confiance, c'est intéressant, c'est un bon pas dans la bonne direction. Mais il faut que l'ensemble des niveaux hiérarchiques se transforment pour être des niveaux d'accompagnement au lieu des niveaux de contrôle.
Et à quoi on juge justement la réussite d'une éducation, par exemple, comme celle des pays scandinaves, hein, puisque c'est un peu l'exemple auquel tout le monde pense toujours, par rapport à la société même d'ailleurs?
Eh bien, il y a différents facteurs, mais par exemple les inégalités. En France, malheureusement, l'école ne sait pas du tout combler les inégalités, malgré la volonté des enseignants, et sur le terrain, il y en a beaucoup qui font tout ce qu'ils peuvent, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Et les pays qui ont su donner plus de degrés de liberté et de formation, et une formation qui s'adosse à la recherche, ont su faire progresser leurs écoles. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que moi, je viens de la recherche biomédicale, on investit 30 fois plus dans la recherche biomédicale que dans la recherche sur l'éducation. C'est pas qu'on fasse pas de recherche sur l'éducation, mais on en fait clairement pas assez. Parce qu'on investit à peu près autant dans la santé et dans l'éducation. Donc, si on voulait que l'espérance de vie progresse, on ferait de la recherche, ce qu'on fait. Mais si on voulait que l'école progresse, il faudrait faire de la recherche. Et la recherche à tous les âges, y compris la toute petite enfance, par exemple.
Ouais, historiquement, d'ailleurs, un pays comme la Finlande, par exemple, a beaucoup investi sur l'éducation et sur la science de l'éducation.
Beaucoup. Les enseignants finlandais sont formés par la recherche et aux méthodes de la recherche. Et donc, ils apprennent comment faire face à la difficulté d'un enfant, plutôt que de se dire j'ai un programme à suivre et c'est pas de ma faute si cet enfant n'y arrive pas, il faut que je continue à avancer. Ils se mobilisent individuellement et collectivement, et ils mobilisent éventuellement des chercheurs pour se dire cet enfant, quelle est sa difficulté? Est-ce qu'il est autiste? Est-ce qu'il vient d'un autre pays? Est-ce qu'il ne maîtrise pas notre langue? Quelles sont les meilleures pédagogies les plus adaptées à ce genre d'enfant? Est-ce qu'on peut progresser et tester des choses pour l'aider à réussir?
On va écouter un extrait du film « Demain », que vous citez d'ailleurs dans votre ouvrage, Cyril Dion, Mélanie Laurent, avec l'exemple de l'éducation en Finlande.
C'est important de se sentir bien en classe. Si l'ambiance est très stricte, ça les inquiète et ils n'arrivent plus à se concentrer. Avant, ils étaient assis en silence, comme des piquets. Et le professeur faisait son cours devant la classe. Aujourd'hui, nous pouvons circuler. Les enfants ont le droit de parler, pendant les maths, par exemple. Ils ont le droit d'échanger. Ça accroît leur confiance en eux-mêmes. Ça les enrichit d'être ainsi avec les autres et ils apprennent les uns des autres. Ils apprennent aussi que le professeur n'est pas une autorité, une sorte de Dieu, que nous sommes tous les mêmes, tous égaux. C'est plus libre, plus ouvert, plus social, et c'est important dans la vie. Tous les élèves sont différents, et nous essayons de tenir compte du fait que tous n'apprennent pas de la même manière.
Voilà, ça résume exactement ce que vous disiez, justement, François Tadié, avec cette institutrice d'une école donc en Finlande. Un commentaire, justement, sur ses propos?
Je me retrouve complètement dans ce qu'elle dit, et c'est effectivement ce qui fait leur force. C'est assez intéressant de voir qu'en une seule interview, on fait passer beaucoup de messages, ne serait-ce que celui du stress, mais aussi la capacité d'interagir avec les élèves, leur permettre d'interagir entre eux. Moi, j'ai visité une classe en Finlande, et c'est effectivement spectaculaire de voir la manière dont ça fonctionne. Il y a des moments où ça fonctionne comme chez nous, Et puis, en un claquement de doigts, ou plutôt dans une invitation qui a lieu en finnois, donc je ne comprends pas complètement, en quelques secondes, les élèves se lèvent et disent « Hello, my name is Paul, what is yours ?» D'accord. Et donc, ils se lèvent et ils se saluent en anglais, parce que, en l'occurrence, c'était un cours d'anglais, c'était un peu plus facile pour moi de suivre ce qui s'y passait. Et ensuite, ils se rassoient. Et donc, il y a des moments de très orchestre symphonique et puis des moments très jazz. Et ils savent complètement passer d'une modalité à l'autre. Et donc, il y a des moments où on passe un message, des moments où, au contraire, on permet aux enfants de se l'approprier.
Ouais. Alors, ça fait quand même des décennies qu'on prend comme exemple les pays scandinaves. Je pense qu'à peu près tous nos ministres de l'éducation sont allés faire un petit séjour, justement, dans ces pays. Comment se fait-il que, malgré, finalement, la force de conviction, quand on va les voir, on est à peu près convaincu que ça fonctionne pas si mal, on ait du mal, aujourd'hui, à intégrer cette façon d'éduquer dans notre propre système?
Je pense que une des difficultés, et je me réjouis du fait qu'elle est en train de commencer à changer, c'est la formation des enseignants. Donc il y a besoin de former les enseignants à ce genre de choses. Idéalement, il faudrait pas simplement que les ministres aillent faire un tour. Il faudrait que l'ensemble des enseignants puissent voyager, qu'on ait des espèces d'Erasmus pour les profs, mais aussi pour les chefs d'établissement, pour les inspecteurs, et pas seulement en Finlande. On pourrait aller voir ce qui se passe au Danemark, on pourrait aller voir ce qui se passe en Italie, en Suisse ou en Angleterre. Et je pense qu'il y a énormément de choses à apprendre en voyageant. C'est d'ailleurs ce que font d'autres pays. Des pays qui progressent sont des pays qui vont voir ce qui se passe ailleurs, qui se nourrissent des réussites et éventuellement qui comprennent suffisamment les échecs pour essayer de les éviter et faire réussir des bonnes idées qui n'ont pas forcément été bien implémentées. Et donc cette capacité à mobiliser l'intelligence collective de l'ensemble des acteurs du système éducatif, c'est ce que font ces autres pays.
C'est la diversité finalement qui fonctionne. Ça, c'est quand même un concept en biologie qui est assez majeur.
On a besoin de diversité et puis on a besoin de sélectionner ce qui marche le mieux et d'amplifier les méthodes qui marchent le mieux. Quand par exemple on donne des prix pour des innovations pédagogiques, il serait important de les documenter et de faire des MOOC ou des cours dans lesquels les meilleures pratiques qui ont lieu chez nous sont mises à disposition de l'ensemble des enseignants.
Allez, François Taddeï, on se retrouve dans un instant. Les messages des auditeurs arrivent pour vous sur franceinter.fr. Le temps d'écouter Marianne Faithfull et The Gypsy Fairy Queen.
Friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the Gypsy Fairy Queen. I follow the Gypsy Fairy Queen. She walks the length and breadth of England, singing her song, using her wand to help and heal the land and the creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. And I follow, follow, follow the Gypsy Fairy Queen. Exist, exist, exist in the twilight in between. She bears a blackthorn staff to help her in her walking. I only listen to her sing, but I never hear her talking anymore. Though once she did, though once she did. And I follow, follow, follow my Gypsy Fairy Queen. Exist, exist, exist in the twilight.
twilight in between. And I follow, follow, follow my gypsy fairy queen. Exist, exist, exist in the country in between. Me and my gypsy queen.
La tête au carré.
François Taddeï, donc, à prendre au XXIe siècle, fin de cette discussion autour de cet ouvrage qui sort chez Calmann Lévy. Alors, puisqu'on parle de l'éducation ici en France, qu'est-ce qu'il faut changer ou promouvoir absolument dans notre système éducatif aujourd'hui? Parce que vous dites que pour l'instant, il est basé beaucoup sur la capacité à mémoriser, à calculer. Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant là aujourd'hui?
Il y a des compétences qui sont dites compétences du XXIe siècle, que beaucoup développent, y compris chez nous, mais a fortiori à l'international, qui sont d'autres capacités. Par exemple, capacité à coopérer, la capacité à être créatif, la capacité à faire une critique constructive d'une information qu'on reçoit, et qui peut être une fake news ou qui peut être quelque chose de pertinent. Il y a la capacité à mêler tout ça, et la capacité à développer la compassion, à développer le sens. Toutes ces dimensions, je pense qu'elles sont essentielles, et c'est vrai qu'on met beaucoup nos enfants en compétition les uns avec les autres pour les réponses aux questions d'hier. Et je pense qu'il vaudrait mieux les inviter à questionner le monde d'aujourd'hui à partir des défis, par exemple ceux que les Nations Unies ont définis comme prioritaires, les 17 grands défis du millénaire, et les inviter à chercher à créer des solutions et à coopérer pour créer des solutions.
Quand vous dites apprendre à apprendre, alors c'est ça aussi, hein, finalement.
Exactement. Si on prend le livre de Stan Dehaene qui décrit très bien comment fonctionne un cerveau, eh bien comprendre qu'on a un cerveau.
Stanislas Dehaene. Ouais.
Et comprendre que ce cerveau peut être manipulé, y compris par les outils numériques, mais aussi par, je sais pas, ceux qui nous vendent du tabac, de l'alcool ou autre chose. Et donc on a besoin d'apprendre que l'on a des biais et apprendre à dépasser ces biais et à se protéger contre toutes les tentatives de manipulation que l'on doit subir.
Claire nous dit sur franceinter.fr, continuer à remplir le cerveau des écoliers ne sert à rien. Il faudrait plutôt les aider à donner du sens à l'information. Qu'en pensez-vous, justement, dans le flot d'informations qui nous submerge tous les jours? Ça, c'est absolument essentiel aujourd'hui.
Je la félicite parce que, quelque part, ce qui est intéressant, c'est que les machines, en tout cas, ne savent pas faire ça.
Trier l'information?
Ne savent pas donner du sens. La question du sens, une machine peut jouer au go, aux échecs et nous écrabouiller, mais elle saura même pas qu'elle a joué et elle saura pas que ça a du sens de jouer, elle saura pas que ça a du sens de gagner. Alors que pour nous, ça a typiquement beaucoup de sens de gagner ou de perdre et de jouer, de pourquoi est-ce qu'on joue. Donc ces questions du pourquoi, ces questions du sens, c'est quoi le sens de la vie? C'est une question à la fois universelle et intemporelle, et je pense que c'est une question qui est toujours plus d'actualité. Les Japonais, par exemple, l'abordent de manière assez intéressante. Ils parlent d'ikigai.
Alors qu'est-ce que c'est?
Ouais. L'ikigai, c'est l'intersection entre ce qu'on aime faire, ça permet de trouver le sens de sa vie, hein. C'est l'intersection de ce qu'on aime faire, de ce que l'on sait faire ou peut apprendre à faire, surtout quand on est jeune, de ce dont le monde a besoin et ce pourquoi on peut trouver des ressources, y compris un salaire. Si on sait trouver l'intersection de ces quatre cercles, alors on a trouvé le sens de sa vie, la raison de se lever le matin et du sens. Et donc je pense qu'il faudrait éventuellement, surtout quand on parle d'orientation pour les jeunes, les aider à réfléchir sur ces sujets.
Gladys nous dit, quand on sait que les technologies peuvent être néfastes et qu'elles sont polluantes, faut-il les utiliser justement pour faciliter l'apprentissage des enfants?
Je pense qu'il faut le faire, mais il faut le faire en développant l'esprit critique qu'il y a derrière. Il faut expliquer aux enfants que il y a différents types de boîtes noires. Notre cerveau est une boîte noire dont on connaît mal le fonctionnement, mais qu'on peut apprendre à comprendre. Et puis, on peut apprendre comment fonctionnent les technologies. On peut apprendre à coder. On peut apprendre à savoir que c'est les réseaux sociaux, les jeux vidéo ont été pensés pour maximiser l'addiction qu'elles produisent chez nous. Et donc, si on sait qu'on est en train de se faire manipuler par un vendeur de cigarettes ou par un vendeur de réseaux sociaux, ça peut peut-être nous aider à prendre un peu de recul par rapport à ça.
Un petit mot sur le projet S'Aventurier également, que vous avez initié.
Alors, les S'Aventuriers, c'est parti du fait qu'on est tous nés chercheurs. Donc ça a été montré par une chercheuse en sciences cognitives, Alison Gopnik à Berkeley. Elle a montré que chez le tout petit, il y a une capacité à observer le monde, il y a une capacité à expérimenter, il y a une capacité à faire des erreurs mais à apprendre de ces erreurs, qui est fondamentalement celle qu'on trouve chez les chercheurs. On l'a entendu en début d'émission encore. C'était très, très, c'est exactement ça chez les chercheurs adultes, mais c'est vrai chez les enfants. Et donc, si les enfants sont nés chercheurs, si on est tous nés chercheurs, ça veut dire que les chercheurs sont des grands enfants et que les enfants sont des petits chercheurs. Mais la question, c'est si c'est inné, comment est-ce qu'on peut le développer? Comment est-ce qu'on peut permettre de cultiver cette capacité à questionner le monde et passer d'un questionnement enfantin à un questionnement scientifique?
Alors justement, ça se travaille à l'école, hein, par exemple sur un thème comme la robotique.
Exactement.
Et on va écouter justement quelques réactions d'enfants qui ont travaillé avec vous à l'école au sein des Saventuriers.
Bonjour, nous sommes des élèves de CM2 de l'école Rabelais de Creil. Cette année, notre classe a travaillé sur la robotique. En début d'année, nous sommes allés au collège Jean-Jacques Rousseau tous les mardis pour apprendre à programmer les robots. D'abord, on a travaillé avec des robotamis. On devait faire des programmes qu'on nous donnait et trouver ce que faisait le robot. Il fallait faire des hypothèses expérimentées pour être sûr. Nous avons tout écrit dans un carnet pour ne pas oublier car le logiciel était en anglais. Ensuite, nous devions relever des défis que le robot avec les robots. C'était de plus en plus dur, mais on réussissait toujours. Puis nous sommes devenus des aventuriers, des chercheurs en robotique.
Nous avons eu des difficultés dans ce projet. Nous faisions des erreurs dans les programmes, mais on devait les résoudre nous-mêmes.
Quand on a fait des erreurs, on se regroupait pour essayer de voir qu'est-ce qui n'allait pas et des fois ça pouvait nous aider. On n'a pas suivi de cours au cours de l'année et on a quand même compris qu'on pouvait réaliser un projet sans cours, sans aide.
Voilà, ça aussi c'est l'autonomie et l'émancipation finalement.
Exactement.
Quand on se débrouille bien entre enfants, on arrive à se passer quasiment du prof, quoi.
Non, en fait, les profs jouent un rôle essentiel. C'est des rôles de mise en musique, c'est des rôles de réalisateurs, de metteurs en scène. C'est des rôles qui sont pas simplement de délivrer un message. Ça, effectivement, il y a plein de sources de messages aujourd'hui. Mais développer cette capacité chez les enfants à travailler ensemble, à apprendre que même quand on a une difficulté, on va réussir à la surmonter, que si on se met ensemble, on va probablement arriver à trouver une solution ensemble, même si ça marchera pas à tous les coups, que c'est pas grave que ça marche pas à tous les coups. Ce qui compte, c'est d'apprendre à apprendre et d'apprendre à travailler pour relever ces défis. Et là, on les entend dans une conférence. C'est-à-dire que les jeunes aventuriers, à la fin, comme
c'est
les chercheurs
parole,
professionnels, présentent en public. Et c'est pour ça que le public réagit à leur présentation.
Et c'est pas tellement dans notre culture, ça, française, hein, justement, d'apprendre à s'exprimer très jeune comme ça devant un public. Les Anglo-Saxons le font très très bien. En France, c'est un petit peu nouveau quand même cette façon de faire, non?
Oui, Eloquentia et quelques autres le développent à leur manière. Et je pense qu'effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que là, les enfants ont non seulement développé leur éloquence, mais ils avaient quelque chose à dire. Quand on a quelque chose à dire, eh bien, tout d'un coup, on a vraiment envie de le dire. Et pour le coup, on va surmonter la peur de parler en public. On va être capable d'être bienveillant. Et on sait que les autres vont l'être aussi dans ce genre de situation.
François Taddeï, vous prenez comme expression, c'est un des projets justement que vous avez proposé dans ce rapport, de faire un GIEC de l'apprendre. Alors, ce serait quoi, justement, un GIEC de l'apprendre?
Alors, il faut rappeler ce que c'est que le GIEC. Hein, ouais. Le GIEC, c'est l'ensemble des chercheurs internationaux qui s'intéressent à l'avenir du climat.
Ouais.
Ça fait des décennies maintenant qu'ils collaborent pour faire les prédictions que l'on sait, pour nous aider à prendre conscience.
Et c'est un état des lieux de la connaissance autour du climat. Hein.
Exactement. Et donc, je pense qu'il faudrait faire la même chose sur l'apprendre. Je pense que je disais qu'il n'y avait pas suffisamment de recherche sur l'apprendre en France. C'est malheureusement vrai dans d'autres pays aussi. Mais si on sait mutualiser les progrès qui sont faits ici et là, si on sait en plus faire de la recherche participative, alors ça mérite d'être souligné, même si vos auditeurs sont très informés de ce genre de choses, la recherche participative, c'est le fait qu'on peut tous participer à la recherche. Donc, c'est pas simplement une recherche hors sol, dans une tour d'ivoire, c'est une recherche sur l'apprendre qui invite tous les auditeurs, tous les citoyens, tous les apprenants à dire ce que c'est que d'apprendre. Aujourd'hui, c'est pas exactement ce que c'était hier, mais en quoi est-ce que ça diffère? Qu'est-ce qu'on aime apprendre aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des nouvelles méthodes? Est-ce qu'elles sont éprouvées? Est-ce qu'elles ont des biais? Est-ce qu'il faudrait les comparer? Comment est-ce qu'on peut les expertiser?
Il n'y a plus du tout de verticalité finalement dans cette façon d'aborder les choses, parce qu'on voit que tout le monde a sa part et tout le monde au contraire peut participer pour alimenter la connaissance.
Oui, moi j'aime beaucoup le mot de Michel Serres qui parle d'autorité, une autorité qui fait grandir, hein, il revient à l'étymologie, mais l'autorité scientifique, ça n'est pas l'autorité de l'inspection générale, ou l'autorité scientifique, c'est le consensus scientifique après un débat argumenté dans lequel les enfants et les citoyens de tous âges et les chercheurs professionnels peuvent chacun apporter leur pierre à l'édifice.
François Taddeï, donc, Apprendre au XXIe siècle, cet ouvrage donc vient de paraître.
avec un choix que vous avez fait de respecter l'accord de proximité, justement, vous le précisez pour ceux qui le lisent, justement, ils vont s'en rendre compte. Ça, c'est une volonté que vous aviez aussi ?
Oui, enfin, c'est des sujets que je trouvais intéressants. J'ai appris il y a quelque temps que l'accord de proximité était la règle avant.
Oui.
Mais il y a un jour, des hommes qui ont pensé que le masculin l'emporte sur le féminin, c'était vrai pour eux dans la société, ça devait être vrai pour eux dans la grammaire, et ils l'ont gravé dans le marbre, et on le propage depuis, et je pense que ça vaut la peine, à minima, de s'interroger sur ce genre de choses.
C'est une façon d'œuvrer, vous dites, pour une société plus égalitaire, en tout cas. Merci beaucoup. Ça s'appelle donc « Apprendre au XXIe siècle », ça paraît chez Kalman Lévy, pour poursuivre la réflexion avec vous, François Tadi. Merci beaucoup d'être venu cet après-midi.
Merci.